Chapitre 14. Vol de nuit. À la tombée de la nuit, Turner retrouva la zone. Cela faisait longtemps qu'il n'y était pas allé. Mais lorsqu'il sentit le phénomène démarrer, il eut l'impression de ne l'avoir jamais quitté. Les stimulants ne provoquaient qu'une approximation de cet état de synchronisation surhumaine. Il ne l'atteignait que sur le site d'une grosse défection, lorsqu'il commandait, et seulement dans les heures qui précédaient l'action. Mais la fois antérieure ne datait pas d'hier. À New Delhi, il s'était contenté de chercher des voies d'évasion possibles pour un cadre qui n'était pas certain de vraiment vouloir changer de boîte. S'il s'était trouvé dans la zone ce soir-là, à Chandni Chowk, il aurait peut-être pu éviter la bombe, ou peut-être pas, mais il aurait au moins essayé. La zone lui permettait désormais d'examiner les éléments qu'il devait gérer sur le site, jonglant entre une multitude d'infimes contingences et des problèmes plus vastes. Jusqu'ici, les premières l'emportaient, et il n'avait rien eu à régler de très préoccupant. Lynch et Weber commençaient à s'agacer mutuellement et il s'efforça de les maintenir séparés. Sa conviction que Lynch était la taupe de Conroy, partie d'une simple intuition, s'était encore renforcée. L'instinct s'aiguisait dans la zone. Tout devenait surnaturel. Nathan ne s'en sortait pas avec les chauffe-mains suédois low-tech. Dès qu'il n'y avait pas de circuit électronique, il ne comprenait plus rien. Turner ordonna à Lynch de s'en occuper, de les alimenter et de les préparer. Puis, il laissa Nathan les emporter à l'extérieur, deux par deux, pour les enterrer près de la surface à 1 mètre d'intervalle, parallèlement aux 2 longues lignes de ruban orange. Le micro-logiciel que Conroy avait envoyé lui emplissait la tête d'un univers indépendant de facteurs variables. Vitesse relative, altitude, position, angle d'attaque, force G, cap, les informations sur l'armement de l'avion, défilaient en une litanie subliminale et perpétuelle de cibles désignées, de trajectoires de bombardement, de cercles de recherche, de signaux de portée et de visée, de décompte des munitions. Conroy avait ajouté au micro-logiciel un message simple, résumant l'heure d'arrivée de l'avion et confirmant qu'il ne pouvait emporter qu'un seul passager. Turner se demanda ce que Mitchell faisait, ce qu'il ressentait. Les installations de Maas Biolab d'Amérique du Nord étaient enfoncées au cœur d'une mesa abrupte, un plateau rocheux qui ressortait du désert. Sur le dossier biologiciel, il avait observé la surface de la mesa, parsemée de fenêtres éclairées. Elle dépassait autour des bras levés d'une mer de saguaro, comme la timonerie d'un immense navire. Pour Mitchell, il s'agissait d'une prison et d'une forteresse, son foyer pendant 9 ans. Quelque part en son sein, il avait perfectionné le travail autour des hybridomes sur lequel d'autres chercheurs s'étaient cassés les dents pendant presque un siècle. À partir de cellules cancéreuses humaines et d'un modèle de synthèse ADN négligé et presque oublié, il avait produit les cellules hybrides immortelles qui servaient d'outil primordial pour cette nouvelle technologie de minuscules usines biochimiques qui reproduisaient à l'infini les molécules conçues par l'homme que l'on reliait et introduisait dans les biopuces. Quelque part dans l'arcologie de Maas, Mitchell vivait sa dernière heure de chercheur vedette de l'entreprise. Turner tenta d'imaginer la vie nouvelle que Mitchell pourrait mener suite à son transfert chez Osaka. Mais il n'y parvint pas. Une arcologie de recherche en Arizona était-elle si différente d'une autre située à Honshu? À certains moments de cette longue journée, les souvenirs encodés de Mitchell était remonté en lui, l'emplissant d'un étrange effroi qui semblait sans rapport avec l'opération en cours. Cette intimité avec eux le perturbait encore, et cette peur en découlait peut-être. Certains fragments paraissaient dotés d'une puissance émotionnelle disproportionnée par rapport à leur contenu. Pourquoi ? Le souvenir d'un couloir banal dans un dortoir miteux de Cambridge provoquait-il chez lui de la culpabilité et de la haine de soi ? D'autres images qui auraient en toute logique dû l'émouvoir ne déclenchait rien. Mitchell qui jouait avec sa fille, encore bébé, sur un tapis en laine pâle dans une maison de location à Genève. La petite qui riait et lui tirait sur la main. Rien. La vie de cet homme, du point de vue de Turner, semblait comme toute tracée. Il était génial. Un talent repéré très tôt, extrêmement motivé et doué. Pour le type de coup fourré exigé en interne pour qui voulait devenir un grand chercheur. Si quelqu'un était capable de gravir les échelons au sein d'un laboratoire privé, songea Turner, c'était bien Mitchell. Turner lui-même n'aurait jamais pu s'intégrer au monde intensément tribal des employés des Zaibatsu, ceux qui y restaient toute leur vie. il demeurait un perpétuel indépendant, un solitaire, qui dérivait sur les mers secrètes de la politique entrepreneuriale. Aucun employé n'aurait pu prendre les initiatives nécessaires à Turner pour mener à bien ce genre de transfert. Aucun employé n'était capable de changer de camp de façon aussi professionnelle et naturelle que lui. Ou peut-être de la loyauté sans faille dont il faisait preuve une fois le contrat signé. Il avait travaillé un peu dans la sécurité avant ses 20 ans, quand l'élan des nouvelles technologies avait remplacé le marasme de l'économie d'après-guerre. Et il avait bien tiré son épingle du jeu dans ce domaine, malgré son absence d'ambition. Ses muscles noueux et son assurance impressionnaient les clients de ses employeurs. Et il était intelligent, très intelligent. Il savait s'habiller. Il s'y connaissait en technologie. Conroy l'avait trouvé au Mexique, où Turner travaillait comme garde du corps auprès d'une équipe SimSteam de SenseNet qui mettait en boîte des épisodes de 30 minutes d'une série d'aventures dans la jungle. Lorsque Conroy était arrivé, Turner avait fini de tout préparer. Il avait mis en relation SenseNet et le gouvernement local, soudoyé les chefs de la police de la ville, analysé le système de sécurité de l'hôtel, rencontré les guides et les chauffeurs du coin avant de vérifier leurs antécédents, installé une protection vocale numérique sur les émetteurs-récepteurs de l'équipe de SimSteam, mis sur pied un groupe de gestion de crise et placé des détecteurs sismiques autour de la suite des employés de SenseNet. Dans le bar de l'hôtel, un jardin luxuriant adjacent au hall d'entrée, il s'était installé seul devant une des tables au plateau en verre. Un homme pâle, à la tignasse de cheveux blancs décolorés, avait traversé la salle avec un verre dans chaque main. Sa peau était tirée sur des traits anguleux et un front haut. Il portait une chemise militaire bien repassée, un jean et des sandales en cuir. « Tu t'occupes de la sécurité des gamins qui font de la SimSteam », lui avait-il déclaré en posant un des verres sur sa table. « C'est Alfredo qui me l'a dit. » Alfredo était un des barman de l'hôtel. Turner avait levé les yeux vers l'inconnu, qui n'avait de toute évidence pas bu et paraissait d'une confiance absolue. « Je ne crois pas que l'on se connaisse », avait rétorqué Turner sans faire mine d'accepter le verre proposé. « Peu importe », avait dit Conroy en s'asseyant. « Nous sommes dans le même domaine. » Turner l'avait observé. Il émanait de lui l'assurance d'un garde du corps, une vigilance et une tension qui ressortaient de sa carrure, et peu d'étrangers devaient se risquer à lui chercher querelle. « Tu sais », avait annoncé l'homme comme s'il commentait une équipe qui faisait une mauvaise saison. « Les détecteurs sismiques que tu utilises ne font pas l'affaire. J'en connais qui pourraient entrer là-bas. Bouffer tes gamins tout crus, empiler leurs os dans la baignoire et sortir en sifflotant. Et ces détecteurs ne les auraient même pas repérés. » Il avait bu une gorgée de son verre. « Mais tu as tout de même bien bossé, tu connais ton boulot. » La phrase « empiler leurs os dans la baignoire » était de trop. Turner avait décidé de se débarrasser de l'inconnu. « Regarde. » « Turner, voilà ton actrice principale. » L'homme avait adressé un sourire à Jane Hamilton, qui le lui avait rendu, ses grands yeux bleus vifs et parfaits. Chaque iris entourée du minuscule lettrage doré du logo Zeiss Icon. Turner s'était figé, bloqué dans un instant d'indécision. La star était proche, trop proche, et l'homme se levait. « Ravi de t'avoir rencontré », avait-il dit. « On se retrouvera tôt ou tard. » Suis mon conseil à propos des détecteurs. Ajoute-y un périmètre d'alarme. Puis, il avait fait demi-tour et s'était éloigné, les muscles apparents sous le tissu impeccable de sa chemise brune. « C'est chouette, Turner », avait dit Hamilton en prenant la place de l'inconnu. « Ah ouais ?» Turner avait observé l'homme qui se perdait dans la foule de la réception, parmi des touristes à la peau rose. C'est rare de vous voir discuter avec quelqu'un. D'habitude, on dirait que vous cherchez à vérifier leur identité, à remplir un rapport. C'est sympa que vous vous fassiez des amis, pour une fois. Turner l'avait regardé. Elle avait 20 ans, 4 de moins que lui, et elle gagnait à peu près 9 fois son salaire annuel par semaine. Elle était blonde, les cheveux courts pour son rôle dans la série, très bronzée, et paraissait être éclairée de l'intérieur par des lampes UV. Ses yeux bleus, instruments optiques d'une perfection inhumaine, avaient été conçus dans des éprouvettes au Japon. Elle était à la fois actrice et caméra. Chacune de ses pupilles coûtait plusieurs millions de nouveaux yens et elle était pourtant loin d'être une des actrices les plus connues de SenseNet. Il était resté assis avec elle au bar, le temps pour elle de boire deux verres. Puis, Il l'avait raccompagné jusqu'au bâtiment où se trouvaient des suites.
« Vous ne voudriez pas entrer pour un petit dernier verre, Turner ?»«
Non, » avait-il répondu. C'était le deuxième soir qu'elle le lui proposait. Et il sentait bien qu'il n'y en aurait pas d'autre. « Je dois vérifier les détecteurs sismiques. » Plus tard dans la nuit, il avait appelé New York pour obtenir le numéro d'une entreprise du Nouveau-Mexique qui pourrait lui fournir des alarmes de périmètre pour l'ensemble de suite. Mais une semaine après, Jane et les trois autres, la moitié de la distribution de la série, étaient morts. « Nous sommes prêts à sortir la salle d'opération, » dit Weber. Turner vit qu'elle portait des moufles de cuir marron, qu'elle avait remplacé ses verres teintés par des lunettes de tir et qu'elle avait un pistolet à la ceinture. « Sutcliffe surveille le périmètre à distance. Nous aurons besoin de tous les autres pour faire traverser les broussailles à cette saloperie. Moi aussi ?» Ramirez prétend qu'il ne peut rien faire d'aussi épuisant juste avant de se brancher, à mon avis. C'est parce que c'est un sale petit branleur de L.A. « Non, » dit Turner en se levant du rebord. « Il a raison. S'il se foule le poignet, nous sommes niqués. Même une blessure très légère qu'il ne sentirait pas pourrait le ralentir. » Weber haussa les épaules. « Ouais, bon. Il est de nouveau dans le bunker à faire tremper ses mains dans ce qui nous reste d'eau et à chantonner. Alors ça devrait aller. » Lorsqu'ils arrivèrent à la salle d'opération, Turner, par automatisme, compta les personnes présentes. 7. Ramirez était dans le bunker, Sutcliffe se trouvait quelque part dans le labyrinthe de parpaings à surveiller les sentinelles à distance, Lynch avait un laser Steiner optique accroché à l'épaule droite, un modèle compact avec une crosse squelette pliable en métal. Des batteries intégrées qui formaient une grosse poignée sous le compartiment gris en titane servant de canon à l'objet. Nathan portait une combinaison noire, des bottes de parachutiste assorties et recouvertes de poussière pâle, tandis que les lunettes bulbeuses, façon yeux de mouche, d'un amplificateur d'image, pendaient sous son menton, accroché par une sangle. Turner retira ses lunettes de soleil mexicaines, les rangea dans la poche de poitrine de sa chemisette bleue, puis referma le bouton. « Comment ça va, Teddy ? » demanda-t-il à un baraquet d'1m80 aux cheveux bruns très courts. « Ça roule !» répondit celui-ci en souriant à pleines dents. Turner examina les trois autres membres de l'équipe sur site et les salua de la tête chacun leur tour. Compton, Costa, Davis. « Ça approche, pas vrai ?» dit Costa. Visage rond couvert de sueur, petite barbe bien taillée. Comme Nathan et les autres, il portait du noir. « On y est presque !» confirma Turner. « Jusqu'ici, tout va bien. » Costa acquiesça. « Nous sommes à une trentaine de minutes de son arrivée. » reprit Turner. Nathan, Davis, dit Weber, détachez le conduit d'évacuation. Elle donna à Turner une des paires d'écouteurs Telefunken qu'elle avait déjà retiré du papier à bulle. Elle s'en équipa à son tour, puis ôta le petit film plastique du microphone cravate auto-adhésif, avant de le coller sur son cou tanné par le soleil. Nathan et Davis se déplaçaient dans l'ombre derrière le module. Turner entendit Davis jurer doucement. Merde, dit Nathan. Y a pas de couvercle pour le bout du tube. Les autres éclatèrent de rire. « Laisse tomber !» dit Weber. « Occupe-toi des roues. Lynch et Compton, retirez les crics !» Lynch sortit une visseuse électrique en forme de pistolet de sa ceinture et passa sous la salle d'opération. Il se mit alors à se balancer dans le léger craquement des suspensions. À l'intérieur, les médecins se déplaçaient. Turner entendit un bref gémissement aigu provenant d'un morceau d'équipement, puis quelques mots du chauffeur de Lynch, tandis qu'il remontait les crics. Il installa son oreillette et colla le micro sous son larynx.
Sutcliffe, vous me recevez ?
Ouais, dit l'Australien d'une toute petite voix qui semblait provenir de la base de son crâne.
Ramirez, 5/5,